thank you so much,
merci,
Kylie.
Merci, Antoine, and thank you so much, Radio FG.
Merci mille fois, Kylie. Happy New Year.
You too.
Plein
bisous,
de belles
bye.
Choses. Bisous et à bientôt.
Septembre 2018. Antoine Baduel reçoit Martin Solveig.
Martin Solveig, mon invité ce soir sur Radio FG. Alors si je vous parle d'un titre balancé en juin dernier et un nom tout trouvé, Martin Solveig effectivement était paré pour l'été avec My Love. Dernier single de l'artiste français qui, il ne faut pas l'oublier, ne connaît pas l'échec. Chacun de ses titres devient irrémédiablement un hymne. On l'a entendu, Martin Solveig est un hitmaker et c'est surtout mon invité ce soir sur FG. Bonsoir Martin.
Salut, salut. Alors, presque 15 ans de vie en une minute, c'est sympa.
C'est ça, c'est drôle. Tu sais, maintenant, le rapport au temps grâce à Internet a été accéléré. Donc, on s'est dit, franchement, voilà. En attendant, tu as toujours été un hitmaker, Martin. De Jealousy à Hello, d'Intoxicated à Plus One, ou même le All Stars avec Alma. Pas étonnant, donc, de voir My Love s'imposer comme un des anthèmes de l'été. Mais ce morceau, pour autant, et on va en parler tout à l'heure, on peut le dire, il revêt un caractère particulier. Mais avant cela, est-ce que le succès du single vient te donner le boost dont tu avais besoin pour finir en beauté cette saison estivale?
Oh oui, ça m'a très bien accompagné, c'est vrai, pendant l'été. Ça a été un très bel été pour moi. Justement, je suis content d'être sur FG pour en parler parce que j'ai eu notamment un très bel été en France. Je voyage comme tous les DJ, mais j'ai eu la chance de faire de belles dates en France.
Alors, My Love, il s'inscrit surtout dans un savoir-faire, une lignée, mais c'est en même temps une rupture. Alors, une rupture, j'allais dire, en tous les cas, une consécration, parce que on entend ta voix et uniquement ta voix sur ce morceau. Est-ce que tu peux nous expliquer, j'allais dire, à la fois ce choix, mais surtout ce cheminement, Martin?
Alors, en fait, c'est pas tout à fait nouveau pour moi d'utiliser ma voix sur les titres, puisque dans mon process de fabrication de la musique, souvent je chante une première version et je refais ensuite avec des chanteurs souvent bien meilleurs que moi. Ça m'est arrivé avec The Night Out par exemple, ou même Intoxicated, où il y a que mes voix aussi, de garder mes voix dans la version finale. C'est vrai que ce titre, il est peut-être plus vocal entre guillemets que Intoxicated, qui a un côté très boulette,
très club,
voilà. Et c'est vrai que du coup, c'est vrai que ça a interpellé plus les gens en général. Et c'est vrai aussi que ça va un peu dans le sens de mes nouveaux projets musicaux et live.
Alors c'est vrai qu'avec Intoxicated, Night Out, j'allais dire que la pente était engagée. Mais là, avec ce côté finalement plus pop dans le morceau, on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose d'abouti, d'affirmé, d'assumé. Est-ce qu'on peut le dire de cette manière? C'est-à-dire oui. Qu'il y a vraiment une démarche qui arrive aujourd'hui à son terme avec quelque part un projet, une nouvelle ouverture, quelque part un nouveau chemin qui est en train de se tracer.
Oui, c'est sûr que ça fait longtemps que je fais de la musique et que je cherche toujours à avancer et donc à explorer des choses que je peux éventuellement avoir en moi et que j'ai pas encore forcément réussi à rendre. My Love, c'est un premier exemple de ça. Il y aura pas mal de surprises, je pense, dans ce qui va arriver cette année.
C'est-à-dire, est-ce qu'il faut s'attendre à justement un projet, un album personnel de A à Z que tu vas intégralement chanter?
Bah non, pas du tout. Alors ça aurait tout à fait pu être ça, mais c'est pas ça. Non, en fait, c'est plus c'est simplement une exploration musicale qui est un tout petit peu plus large. Tu as dit le mot et ça me fait pas du tout peur. C'est un peu peut-être un peu plus pop d'une certaine manière. En tout cas, c'est pas forcément des titres qu'on peut jouer dans leur version originale en club et s'attendre à ce que la piste de dance s'enflamme ou s'embrase. Et c'est vrai que avec pas mal d'années de club musique, là je sors d'une grosse séquence club musique qui s'est terminée avec All Stars. J'ai beaucoup de choses en fait un peu dans les tiroirs et dans les cassettes qui sont éloignées de ça et ça commence à constituer un peu un tout. Et puis il y aura d'autres surprises avec des collaborations inattendues.
Alors c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure vraiment d'une, j'allais dire, d'une, avec ce morceau My Love, d'un virage plus pop. Est-ce qu'il faut s'attendre justement à des surprises de la sorte quand tu seras sur scène?
Énormément. Ouais. il faut savoir que le 2 novembre est quasiment ma prochaine date. J'ai deux petits passages à Ibiza pour terminer ma résidence estivale et une ou deux bricoles. Mais toute mon attention et toute mon énergie est sur la fabrication de ce live à l'Olympia, puisque c'était la date qui avait conclu ma première tournée live en 2009. Et c'est la date qui ouvre en fait vraiment une nouvelle série de shows sur lesquels je suis en train de travailler en ce moment.
Alors à quoi faut-il s'attendre? Parce que c'est toujours intéressant de voir aujourd'hui que les DJ accomplis ont un peu tendance à vouloir renouveler leur performance scénique et scénographique. Calvin Harris dit que maintenant il va même arrêter les DJ sets par exemple. D'autres veulent expérimenter d'autres formes de live. Avec toi qui as toujours eu, j'allais dire, une intervention particulière sur l'esthétique, sur les danseurs, les danseuses, est-ce qu'il faut s'attendre justement à de très très belles surprises en matière de chorégraphie?
Ouais, il faut s'attendre à pas mal de surprises un peu à tous les niveaux, j'ai envie de dire, parce que je réfléchis depuis déjà un an à comment mettre en scène ma musique un peu d'une nouvelle façon. Il y a plein de choses qui se passent dans ce domaine. Il y a des concerts, des festivals, toutes sortes de choses. Et je me suis un peu inspiré. J'ai regardé plein de choses, y compris dans des univers de musique un peu lointains du mien, pour essayer de proposer quelque chose qui soit 2018, voire même 2019, c'est-à-dire quelque chose d'un peu moderne et qui soit un vrai show où on va aussi beaucoup s'amuser. C'est pas, j'ai vraiment envie de garder l'énergie, la dimension ludique qu'il peut y avoir dans mes shows de festival et rajouter quelque chose de encore plus personnel.
Alors c'est très drôle parce que je trouve qu'il y a aussi un nouveau Martin qui émerge un peu sur scène. On a toujours connu le Martin décalé, un peu loufoque dans les clips notamment, mais là c'est un Martin plus extraverti, plus extravagant même parfois à certains égards, en tous les cas excentrique même en tous les cas.
Quelle date?
Sur ton compte Facebook par exemple, tu vois des choses comme ça où on retrouve souvent des photos très travaillées, très drôles, très décalées. Bon, ça t'as toujours su faire.
C'est plutôt sur Instagram.
Instagram. Alors est-ce qu'il faut s'attendre à ça aussi sur scène, c'est-à-dire ce troisième degré?
Oui, à fond, il faut un petit peu, quand on a, il faut un peu la pousser. Il faut. Moi, j'ai toujours envie d'essayer d'être créatif. Le truc, la problématique des réseaux sociaux et de l'image en règle générale, pour moi, ça a toujours été une extension de ma réflexion créative sur la musique. Et donc, j'essaye de faire ça exactement, avec parfois avec succès, parfois avec moins de succès. Mais en tout cas, Instagram, c'est pas très grave, donc on peut se lâcher, on peut tenter des choses.
Alors on le voit, la vie de DJ avec les tournées, les cadences.
J'ai pas assez de Parisiens sur Instagram, donc j'en profite. C'est le moment de se connecter et de.
Les FG, s'il vous plaît. On se bouge un peu.
Ouais.
C'est vrai qu'on le voit de plus en plus pour les DJ. C'est vrai que le rythme est parfois épuisant, infernal. Ça invite certains artistes aussi à la réflexion. Il y a eu le cas d'Avicii évidemment, mais sans aller jusque là, certains artistes, on le disait tout à l'heure, comme Calvin Harris, expliquent la fatigue des bookings, aussi la lassitude, le sentiment d'avoir un peu tout exploré. Est-ce que toi, avec cette carrière qui a été très créative, toujours, j'allais dire, faite aussi de projets parallèles, africanisme, d'autres projets chantés en français, est-ce que ça t'amène justement en live et au quotidien, en permanence, à vouloir te réinventer?
Alors, en fait, il y a deux questions, là, je vais répondre aux deux, parce que la première me tient à cœur. J'ai eu la chance de connaître beaucoup de succès dans ma vie, mais rarement, à part un peu à la période Hello, qui a été une période vraiment où le moteur est monté un peu haut dans les tours, rarement des explosions intersidérales comme a pu être la grosse période d'Avicii quand il a sorti d'abord Levels puis Wake Me Up ou des choses comme ça. Donc la machine s'est jamais complètement emballée et j'ai eu la chance aussi avec un petit peu avec l'expérience de comprendre que trop c'était trop et qu'il fallait être capable de dire non et de diminuer clairement mon nombre de shows. Moi, j'ai vraiment clairement diminué mon nombre de shows maintenant. Je suis passé de 150 à 120, puis 100. Maintenant, je suis à carrément 80 shows par an.
Ce qui est déjà énorme.
Ce qui semble beaucoup, mais qui est infime par rapport aux artistes de ma zone. Et en fait, ça me permet, et c'est très important. Ça me permet de prendre un plaisir de dingue en fait dans ce que je fais et de garder vraiment d'abord que les trucs que j'ai envie de faire et ensuite de les faire bien, de les faire
avec
d'arriver
passion.
En forme et ça change tout.
Décembre 2021. Antoine Baduel reçoit Bon Entendeur.
En direct sur FG, ce soir, j'ai le plaisir de recevoir les Bon Entendeurs. Compte en commun, France Gall, Édouard Baird ou encore Pierre Ninet. Toutes et tous ont été les héros d'une mixtape de Bon Entendeur. Le collectif français délicieusement rétro partira en tournée à partir des prochaines semaines pour présenter leur nouvel album Minuit. Ce sont mes invités ce soir sur FG. Bonsoir les garçons,
bonsoir,
comment ça va?
Bonsoir,
ça va très bien et toi?
Bon, ben, ça va super bien et surtout quand vous êtes en live dans le studio et je sais que je vais vous retrouver ensuite en mix pour nous parler évidemment de tous vos projets. Alors après vous avoir fait ce petit name dropping, je vais vous parler de villes, et évidemment Lille, Rennes, Londres, Barcelone, Toulouse, à l'affiche de votre grande tournée européenne qui va débuter donc le 15 janvier. Le live, enfin si je peux dire, après le cauchemar du Covid, donc vraiment c'est une, j'imagine, une libération, un accomplissement aussi pour finalement pour vous qui êtes toujours à mi-chemin entre le live, la production, tout ça, et qui avait dû être très très frustré par ces derniers mois.
C'est ça en fait, cette tournée qu'on a la chance d'avoir, normalement d'ailleurs, parce qu'on dit ça, mais le Covid, on ne sait pas trop où il en est, et on verra, on fera le point en février.
On touche du bois.
On touche tous
même
du
si
bois,
c'est là. De l'amalgame, là, on touche.
Exactement, on touche de partout. Mais en fait, oui, la tournée qu'on a au printemps, et finalement la tournée qu'on devait avoir il y a 2 ans, mais qui a été reportée. Donc Copenhague, il y avait des villes comme Berlin aussi, qu'on n'a pas réussi à refaire, mais voilà, ça va être une très belle tournée française, internationale.
Comment vous l'avez préparée cette tournée? Du coup, est-ce que vous l'avez faite, puis finalement, comme elle a été annulée, défaite, repensée? Est-ce que finalement, entre le travail artistique que le public va découvrir à partir du mois de janvier, est-ce que vous aviez prévu initialement? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de retouches?
Alors oui, il y a eu beaucoup de retouches. Beaucoup de dates ont été annulées, d'autres ont été reportées, il y en a d'autres qui sont rajoutées. Mais c'est un peu aussi à l'image d'une des premières dates de la tournée qu'on va avoir, le 22 janvier prochain, le Zénith de Paris, où il était censé avoir lieu le 17 mars 2020. Donc quasiment au moment où on a tous été confinés pour la première fois et on a cessé de décaler, redécaler cette date. Donc voilà, maintenant on croise les doigts pour de bon et ça sera le 22 janvier. Et ce show a évolué aussi tout au long de ces deux années de décalage, parce qu'entre temps on a sorti un nouvel album et voilà, donc on est forcé de faire évoluer tout ça.
Il faut le préciser, hein, c'est une tournée aussi qui va être un peu hybride, parce qu'elle va passer d'un côté, elle va visiter certaines salles, on parlait du Zénith, et puis parfois d'autres salles qui sont presque un peu comme des, j'allais dire un peu comme des clubs, je pense au Bikini qui est un peu hybride entre les deux. Est-ce que justement vous modulez un peu votre manière de travailler la scénographie en fonction de la salle, en fonction de l'endroit, en fonction de l'ambiance aussi?
En fait, ce qui dépend grandement de la scénographie, c'est aussi l'heure à laquelle on passe. La tournée qu'on avait eu la chance de faire, la petite tournée qu'on a fait l'an dernier, on jouait assez tôt, enfin même il y a 2 ans on jouait aux alentours de 20h. Là on va avoir une tournée où on joue beaucoup plus tard, aux alentours de minuit, 1h, donc on va un peu muscler le style musical qu'on va jouer et ça va être beaucoup plus dynamique.
Ah ouais. Est-ce que justement on connaît votre plaisir à jouer des lives, on connaît aussi votre amour pour les collages sonores, le mélange des styles, alors du coup ils vont ressembler à quoi ces concerts? Je veux dire, est-ce qu'il va y avoir de l'instrumental? Vous serez entouré de voix, de chanteurs, de chanteuses, parce que c'est quand même marqué And Friends.
Alors c'est marqué And Friends parce que c'est des artistes qu'on adore, qui par exemple pour certains font partie de la compilation qu'on a sorti récemment. Mais voilà, en général nous c'est vraiment un format DJ set où on propose donc des morceaux à nous, mais aussi des morceaux qu'on adore d'artistes qu'on a mis dans nos mixtapes ou sur lesquels on travaille sur notre petit label.
Alors parlons-en de la promo. Il y a votre donc ce nouveau single qui est sorti puisqu'il fait partie de l'album, mais dont le clip sera publié je crois mardi prochain.
Exactement.
Voilà, avec d'ailleurs un teaser très années 90, il faut le dire. On a l'impression que ça c'est la pub pour un 36-15, mais c'est ça. C'est un Allo Réseau Hotline. Alors justement parlons-en les garçons, de ce Allo Réseau, extrait de l'album Minuit, un titre doté d'un lancement un peu rétro, un peu hot aussi. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Parce que d'après ce que je comprends, le clip a un rôle assez structurant.
Exactement, le clip en fait que vous allez pouvoir découvrir dans quelques jours, c'est la suite du clip du Temps de l'Amour. Donc c'est une histoire, c'est l'histoire de deux jeunes filles qui viennent de faire un braquage et qui sont poursuivies par un duo de policiers dans un jus 70s avec la colorimétrie qui suit et le style vestimentaire aussi.
Bon Entendeur en tournée à partir de jeudi, de janvier prochain. Bon Entendeur, qu'on sait plutôt chaleureux, un peu voluptueux, toujours doux dans le son, parfois érotique même. En concert, forcément, il faut être un peu plus rythmé. Alors, comment vous faites? Est-ce qu'il y a certains des morceaux que vous retravaillez quand vous les performez sur scène? Est-ce qu'il y a justement un rework adapté pour ça?
Ouais, bien sûr, il y a beaucoup d'édits qu'on garde pour notre live et qui sont bien au chaud dans notre clé USB. Et c'est à peu près le seul endroit où ils sont, ou en tout cas pas sur Internet. Après, il y a aussi des sons qu'on s'interdit de jouer. Parce que évidemment très bien pour écouter chez soi, dans sa voiture, dans son bain, mais un peu plus difficile à 2h du matin en boîte de nuit. Donc évidemment, ouais. Voilà, il y a des morceaux sur lesquels on doit faire l'impasse, mais qu'on joue dans d'autres contextes, et c'est pas grave. Ça nous
alors finalement, si je comprends bien, il va y avoir des dates qui vont être vraiment en mode 21h concert et rideau, ensuite à 23h tout est fini, et puis des dates qui vont vraiment être en mode un peu plus vénère, un peu plus minuit.
Et la majorité, je crois qu'on va quand même être globalement assez énervé hein, sur cette tournée. On va jouer relativement tard. Je suis pas sûr qu'on joue souvent à 20h. Hein. Ce format-là, je crois qu'on le fait plus trop. On l'a testé, et là, on a envie de tester autre chose avec un format plus club.
Alors déjà, minuit possède un versant club justement. Plus discoïsé, et je me doute que forcément le public va être emporté, et surtout avec une force, il faut le dire, c'est que il y a quand même la grande majorité, la quasi-totalité de vos hymnes sont chantés en français. Le public peut donc se les approprier, s'en donner à cœur joie. Cette approche pop, justement, de voir les gens chanter, est-ce que c'est important pour vous quand vous êtes sur scène?
Moi, je trouve que c'est en tout cas un des trucs les plus gratifiants dans ce qu'on fait, parce que quand on crée ces morceaux, on est seul dans nos studios, c'est très calme, c'est un métier solitaire. Et en fait, derrière, l'immense récompense de le jouer devant des centaines, milliers de personnes et de voir qu'ils connaissent les paroles, mais c'est extraordinaire. Et il y a peu d'activités qui nous permettent de vivre un truc pareil, quoi.
Alors, Bon Entendeur, c'est un album, c'est une tournée, c'est aussi un label qui vient d'ailleurs de sortir une nouvelle compilation intitulée 002. Elle s'agrandit, la famille Bon Entendeur.
Et petit à petit, de compilation en compilation, ça y est, on commence à être une petite famille. Là, on pourrait faire une belle équipe de foot.
Quelles sont vos ambitions là, avec ce label? C'est de dénicher de nouveaux talents qui vont pouvoir travailler avec vous, ou vraiment aller vraiment sur le côté family?
Un peu des deux. On adore mettre en avant des gens, des artistes qu'on trouve talentueux. Et puis
c'est dans la continuité des mixtapes en fait. Depuis 50 mixtapes, depuis 8 ans maintenant, on s'amuse, enfin on adore ça, dénicher de jeunes artistes pas trop connus. Et en fait, pouvoir. Il y a un truc qui est encore plus important, au-delà des mixtapes, qui reste un format très digital, c'est que là, il y a un objet. On a un objet, un vinyle dans les mains, avec une création qu'on a travaillée avec une graphiste. Et on se dit, voilà, ça, c'est le petit artiste ou la chanson qu'on a réussi à signer qui n'était pas trop connue, et qui est illustrée par un beau vinyle. Donc maintenant, il y en a deux. Et chaque année, comme ça, il y aura de nouveaux vinyles, de nouvelles créas, et ça va faire un beau mur de vinyle dans quelques années.
Mai 2014. Antoine Baduel reçoit Fritz Kalkbrenner.
Et ce soir, j'ai le plaisir et le prestige de recevoir le DJ allemand Fritz Kalkbrenner. La réussite de deux DJ, deux frères, c'est rare, voire inédit. Surtout que l'un des deux est une légende de la techno, l'autre un journaliste venu aux platines sur le tard. L'un s'appelle Paul, l'autre s'appelle Fritz. Il s'agit en effet des frères Kalkbrenner. Fritz Kalkbrenner qui sera aujourd'hui une des têtes d'affiche du festival Marvelous Island qui se tient à Paris, au Bois de Vincennes. Ce soir, c'est mon invité de la P-Hour sur Radio FG, Fritz Kalkbrenner. Bonsoir, guten Abend.
Bonsoir, guten Abend.
Avant de parler du festival Marvelous Island, Fritz, je note que tu as beaucoup de dates en France ce mois-ci et que tu reviens souvent nous voir. Je sais que le couple franco-allemand en Europe nous oblige à nous aimer, mais plus sérieusement, comment tu expliques que les meilleurs clubs français t'invitent? Est-ce que tu penses que tu as bâti une fanbase en France?
Also, das ist auf jeden Fall so. Das ist in Frankreich ist eine, also A, natürlich eine große und gute Szene und
en fait,
auch eine große und starke Fanbase.
En fait, c'est normal parce qu'en France, oui, il y a une scène qui est vraiment importante et vraiment une scène qui est vraiment très très développée. Yeah.
Und es ist so, dass es also ist so in den letzten Jahren ist es auch wie sagt man, stärker geworden. Das Interesse ist größer geworden und ja, das kann man schon so sagen, dass also in Zentraleuropa ist das mit einer der größten, so, also nicht
On peut dire qu'en tous les cas, c'est vrai que ces dernières années, c'est devenu beaucoup plus fort, ça s'est beaucoup plus développé. Et c'est vrai que ces dernières années, oui, la France est devenue plus importante, plus incontournable. Et en tous les cas, c'est vrai que la fanbase de Fritz est devenue beaucoup plus importante. Alors, je le disais en te présentant, à la base, tu es journaliste, ton frère, une véritable star de la techno. Qu'est-ce qui t'a amené à te lancer dans le métier de DJ, de producteur, avec l'ombre de ce frère déjà bien installé, alors que vous jouez des sons très, très différents?
Und von daher ist so etwas wie Neid oder Konkurrenz oder solche Dinge oder irgendwie so ein Willen, ist die Position. Das Problem haben wir nie gehabt.
En fait, il n'y a aucun problème parce qu'il n'y a jamais eu de problème de concurrence ou de jalousie entre deux. Donc déjà, il n'y a vraiment pas de problème de la sorte parce qu'il n'y a pas de rivalité.
Und was das mit dem, also sozusagen mit meiner Entscheidung, sozusagen vom Journalisten zum Musiker zu werden, das ist in Deutschland ist das so, das sind beides freischaffende Modelle, also wo man nicht fest angestellt ist. Und das hat sich dann so ganz langsam, peu à peu, hat sich das so Stück für Stück, hat sich das so vor vielen Jahren, hat sich das dann rübergewandelt, wo ich dann und auf einmal war ich
Vollzeitmusiker
und kein Sänger.
Et le fait qu'il soit passé de journaliste à DJ, d'abord, dans les deux cas de figure, c'est quand même des domaines qui sont liés à la création, mais surtout ça s'est fait d'une manière très progressive, comme il le dit, puisque le mot en allemand est le même, c'est peu à peu. Ça s'est fait progressivement, petit à petit, et c'est vrai que du coup les choses se sont faites d'une manière finalement assez naturelle, et qu'il s'est rendu compte que la frontière entre celle de journaliste et celle d'artiste était finalement assez mince. Alors en termes de son, c'est vrai qu'il y a des vraies différences entre Paul et toi. Lui symbolise une techno underground berlinoise, toi t'es davantage porté vers une house teintée de soul et de hip-hop. Quelles sont tes influences? Qu'est-ce qui inspire tes productions? Il paraît que t'es un expert musical.
Ich kenne mich im Vergleich zu Paul kenne ich mich schon sehr gut aus. Ich habe eine sehr große Plattensammlung. Natürlich bin ich schon von früher her noch ein großer Marvin Gaye und Curtis Mayfield Fan und so. Das kann ich, das auch wenn man Clubmusik macht in einer gewissen Art und Weise, kann man das dann nicht so negieren oder außen vor lassen. Das ist immer noch ein wichtiger und starker Einfluss.
En fait, il y a beaucoup d'influence autour de la musique black, puisque par exemple il a toujours eu des tracks genre de Marvin Gaye ou des artistes comme ça. C'est vrai qu'en même temps leur musique elle est assez différente aux deux frères, mais ils ont aussi des racines en commun, ils ont même des scuds, des disques en commun. Donc c'est vrai que oui, les la musique qu'ils jouent est différente. Oui, en tous les cas, on peut pas dire le contraire, il a des influences black, mais les choses sont pas arrêtées en tous les cas. On est de retour avec Fritz Kalkbrenner qui est mon invité ce soir de la P-Hour sur Radio FG. Alors Fritz, tu as grandi à Berlin-Est, ce Berlin qu'on glorifie dans la scène électro pour être un chaudron créatif, une ville où l'underground est presque un mode de vie. Qu'est-ce qu'on trouve à Berlin qui n'existe pas dans des autres capitales comme Paris ou Londres?
Also, sagen wir mal, in der wichtigsten Phase, die so gerade was die elektronische Musik begann, was so angeht, was so die frühen 90er und sag mal, bis so in die Mitte der 1000er Jahre
hineingeht, en fait, dans la phase vraiment du début des importantes, c'est-à-dire à la fin, au moment des années 90 et au début des années 2000, il y a bitte?
Und da in der Zeit war einfach die Möglichkeit, einen Raum zu haben, der sozusagen nicht, der die Möglichkeiten gibt. Und das war sozusagen nach der Wende der Wiedervereinigung dieser Freiraum, der hier diese Möglichkeiten gegeben hat.
En fait, ils ont eu des endroits. En fait, d'abord, il y a eu un espèce de mouvement qui s'est passé dans cette ville. C'est vrai qu'il y a eu la réunification. Et puis, il y avait à la fois des espaces. Il y avait aussi vraiment une place pour cette espèce de mouvement qui se passait autour des musiques électroniques. Ja, bitte.
Ich glaube ja, dass sozusagen auch im Zuge der Globalisierung, wenn wir sie so nennen wollen, auf allen Ebenen, auch auf der künstlerischen Ebene, dass sich das zunehmend immer mehr angleicht. Also wenn Berlin zwar vor 15 oder 20 Jahren Alleinstellungsmerkmale gehabt hat, die einmalig auf der Welt waren, die verglichen jetzt so mit Städten wie Paris oder London zunehmend kleiner geworden. Also da findet auch so ein Angleich statt.
En fait, on ne peut pas comparer des villes comme Berlin avec Paris ou Londres, tout simplement parce que Berlin a toujours été une ville qui a été dans le mouvement, une ville où il s'est toujours passé des choses, une ville aussi où tout était quelque part permis, et c'est ce qui a fait que les choses se sont passées d'une manière aussi facile. Alors, tu es à Paris, une des têtes d'affiche du festival Marvelous Island. Quel type de set tu t'apprêtes à livrer? Est-ce que tu conçois tes prestations comme des shows et des voyages musicaux?
Das auf jeden Fall schon. Man versucht natürlich so einen Spannungsbogen.
Oui, c'est clair. Lui, ce qu'il veut, c'est étonner les gens.
Der so ein Beginn, sozusagen ein Hauptteil, aber auch eine Obertüre, darüber verfügt. Also das sind eigentlich ganz klassische Elemente, die da eine Rolle spielen. Also dass es sich nicht so gerade wie so ein Strich hindurchzieht, sondern schon so.
Il adore mélanger en tous les cas les éléments avec plein de styles d'influence. Il aime bien surprendre les gens.
Also eigentlich ist sozusagen statt dem einzelnen Schritt, was dort drin ist, wiederfindet, ist sozusagen dieser Gesamteindruck eigentlich, der dann abschließend sich so ergibt, ist eigentlich der wichtigste.
Et ce qui est important, c'est de donner toujours une impression que vraiment il se passe quelque chose et que c'est vraiment créer l'événement et l'étonnement. Un petit mot sur tes productions quand même. T'as sorti l'album Sick Traveling en 2012. Est-ce que tu bosses déjà sur un successeur ou tu préfères produire des titres les uns après les autres?
Also, ich hab schon einen Albumplan. Das ist auf jeden Fall so. Das ist so für auch das.
En fait, il a un album qui est en préparation, ça c'est sûr et certain.
Und da bin ich auch schon recht weit gediegen, aber das ist auch noch nicht, wie sagt man, hundertprozentig spruchreif. Da kann ich noch nicht so Zahlen, Daten.
Il peut pas nous donner clairement la date de la sortie ni nous donner les éléments définitifs, mais oui, l'orientation, la courbe de l'album est déjà, comme on dit, est déjà prise, c'est-à-dire un peu la couleur musicale, vers quoi ça va se tourner. Mais en revanche, nous donner toutes les dates de sortie, bien, ça sera la surprise pour la prochaine fois. Das wird die Überraschung sein. En tous les cas, c'était le DJ berlinois Fritz Kalkbrenner, invité de l'édition 2014 du festival Marvelous Island avec Radio FG qui vient de s'ouvrir à Paris, qui va s'étaler jusqu'à samedi prochain avec entre autres King and Solomon Dubfire. Toutes les infos, vous les retrouvez sur radiofg.com et marvelousisland.fr. Fritz, vielen, vielen Dank. Es war sehr angenehm, mit dir zu sprechen. Vielen Dank, viel Spaß in Paris.
Vielen Dank, merci.
Merci, au revoir, mon ami.
Novembre 2020. Antoine Baduel reçoit Woodkid.
Il est auteur, compositeur, interprète, réalisateur, musicien et graphiste. Tout ça en une seule personne, c'est Woodkid qui fait partie des artistes les plus complets de la scène française. 7 ans après The Golden Age, il est de retour avec S16, son second et nouvel album. Un album magnifique qui questionne sur la condition de l'homme et de son impact sur la planète. Woodkid est mon invité ce soir dans la Happy Hour. Bonsoir Woodkid, comment vas-tu ?
Salut, ça va.
Alors je suis sûr que parmi nos auditeurs, il y en a qui ne connaissent pas le nom de Woodkid, mais qui en ont forcément entendu parler ou qui ont déjà au moins entendu ça. Run Boy Run, c'est un des titres issus de ton premier album, Golden Age, un morceau qui te caractérise bien puisque tu as un style très singulier. C'est quelque chose que tu souhaitais en commençant justement avoir un univers qui te soit vraiment personnel et propre?
Je me suis pas trop posé cette question. En fait, j'avais surtout envie de faire quelque chose qui était moi, quoi. Et moi, quand j'étais gamin, j'écoutais des bandes-son de films, j'écoutais... Voilà, des trucs un peu percussifs comme ça, donc forcément j'ai digéré tout ça et puis c'est ressorti dans ma musique. Après il s'est avéré que c'était singulier parce que peut-être que je le suis un peu moi-même, donc c'est tant mieux, j'espère.
Alors tu as un parcours incroyable hein, parce que avant de faire de la musique pour toi, tu réalisais des clips pour les autres et pas n'importe qui, Taylor Swift, Lana Del Rey, Katy Perry, Moby. Est-ce que c'est le fait d'avoir travaillé avec tous ces grands artistes qui t'a donné envie de composer pour toi-même?
Moi la musique, elle a toujours fait partie de ma vie, j'ai toujours fait de la musique même plus jeune. Mais oui, peut-être qu'à un moment il y avait une petite frustration. J'avais envie que mes films soient aussi, comment dire, j'avais envie d'avoir complètement un complet contrôle de mes films. Donc en fait, j'avais aussi envie d'en faire la musique à un moment.
Alors tu viens de sortir ton second album S16 comme le symbole chimique du soufre, l'un des composants de la poudre à canon. Et c'est pas un hasard hein, puisque tout l'album a été conçu autour de la question de l'impact de l'homme sur la planète. Comment tu traduis ça musicalement? Comment ce message apparaît dans tes sons grâce à des sons métalliques comme dans Yellow Pale ou alors des accélérations de tempo? Comment tu l'exprimes tout ça?
Ouais, il y a une espèce d'idée de corruption dans l'album. Donc, en fait, tout est corrompu dans l'album. Les sons sont corrompus. On a enregistré des grandes passes de cordes à Abbey Road qu'on a ramené à Paris, mais qu'on a passé dans des bandes pour les ralentir, pour avoir l'impression que tout galérait un peu. Je voulais que l'album il soit comme passé à l'acide, en fait, qui est justement cette espèce de vernis hyper chimique sur tout l'album, dans la prod, tout ça. Donc, au final, oui, ça parle de cette toxicité ambiante, ça parle un peu du poids du monde, et c'est comme ça que je le transcris dans la musique, quoi.
Woodkid, c'est aussi toi qui réalises tes clips, comme pour In Your Likeness, qui est sorti hier sur YouTube, ou encore Goliath, le premier single dévoilé de S16. C'est important pour toi d'étendre ta musique sur des images, parce que j'imagine que ça vient aussi compléter ta démarche artistique, mais aussi ton message.
Ouais, je le vois pas comme une extension. C'est bon, moi, c'est mon métier d'être réalisateur. Donc, ce que je propose, c'est les deux, en fait. Je mets pas l'un devant l'autre, ni chronologiquement, ni en termes d'importance. En fait, pour moi, les images et la musique, elles fonctionnent ensemble dans ce que j'ai raconté, en fait.
Eh bien voilà, en tous les cas, Woodkid, une voix, un compositeur, un réalisateur, bref, un artiste complet, le producteur français qui vient de sortir S16, le nouvel album très percutant, un album conçu à la manière d'une véritable œuvre d'art. Merci en tous les cas, Woodkid, et à très bientôt.
Merci
sur
beaucoup.
FG.
Octobre 2013. Antoine Baduel reçoit Laurent Garnier.
Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir le DJ et producteur Laurent Garnier. C'est une légende vivante des musiques électroniques et c'est donc avec délice qu'on l'écoute raconter l'histoire de cette scène et sa propre carrière. Laurent Garnier vient de rééditer son livre Electrochoc avec beaucoup d'anecdotes, d'interviews, de réflexions sur l'électro, mais aussi une bande dessinée à la gloire de la techno, un très beau livre qui s'appelle Rêve syncopé. Pour en parler, le grand Laurent Garnier, ce soir, mon invité de la Happy Hour. Bonsoir Laurent, bienvenue sur FG.
Tu vas bien ?
Mais ça va très très bien. Alors avant de parler de la réédition d'Electrochoc, Laurent, il y a ce livre entre roman et BD, un objet très innovant, et c'est souvent le cas avec toi. Ça s'appelle Rêve syncopé. Alors quelle présentation tu pourrais faire de cet ouvrage ? Est-ce que c'est finalement un biopic sur ta vie et sur ta carrière ?
Pas du tout. C'est non, on peut pas prendre ça comme un biopic. Je pense que Electrochoc est plus raconte beaucoup plus ma carrière et ce que j'ai traversé. Je crois que Rêve syncopé, même si il y a un espèce de truc qui va focaliser sur mon personnage, parce que c'est en fin de compte Rêve syncopé, c'est un interview entre deux personnes. C'est-à-dire que tu as une journaliste que je rencontre dans la BD, que je rencontre dans un studio de radio, donc on est quand même sur un univers qui est très privé, qui est on est que deux à discuter, c'est un petit endroit un peu simple et où on se sent bien, et donc elle me pose certaines questions sur ma carrière, mais très rapidement on va aller se balader. Et comme c'est très graphique, parce qu'il y a beaucoup de dessins, on va aller se balader dans des endroits comme Manchester, comme Détroit, où on va d'ailleurs des fois rencontrer des gens comme Jeff Mills, qui parle aussi pas mal dans la BD. Quand on est à Détroit, on va aller à Berlin. Et c'est assez déstructuré, bizarrement, puisque quand on se retrouve à Berlin avec Dimitri, qui est le mec qui avait ouvert le trésor à l'époque, on va parler de ce que lui il a ressenti quand il a ouvert le club, pourquoi il l'a ouvert. Après on se retrouve dans les rues de Paris avec Scanix, où on va acheter des disques, rue des Taillandiers. C'est plutôt des espèces de bribes de conversation, d'idées mises les unes après les autres, sans forcément avoir une vraie chronologie ou sans trop se prendre la tête sur la structure de l'histoire. Donc on est plus sur un... Ça s'appelle pas Rêve syncopé pour rien. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est sur une espèce de narration où on rêve beaucoup, on envoie des idées sans forcément toujours creuser jusqu'au bout. Il y a un réel part, il y a une belle part de c'est assez romantique, c'est assez flou aussi. C'est une lecture assez floue. Faut pas s'attendre à voir, en tout cas à connaître toute l'histoire de fond en comble en achetant cette BD. Je trouve que, comme justement moi je bossais à l'époque, parce qu'il faut comprendre aussi le cheminement de Rêve syncopé, c'est-à-dire que j'ai été contacté par Mathilde et par Laurent, donc Laurent qui est le dessinateur et Mathilde qui est la personne qui a écrit la BD, et avec ou sans moi ils auraient quand même fait cette BD.
Ouais, d'accord.
Ils m'ont dit, on a envie de te prendre toi en tant que personnage principal parce que tu véhicules pas mal de choses, ça fait beaucoup de choses dans ta carrière. Est-ce que tu as envie de faire partie du projet avec nous? Je dis oui, bien sûr, parce que si vous allez parler de ma carrière, je préfère lire vos notes et qu'on parle ensemble et que les choses soient vraies et que ce soit des pensées des choses que je puisse raconter, tu vois, des trucs qui me ressemblent. Donc on s'est beaucoup rencontrés, on a beaucoup travaillé ensemble, mais c'est quand même l'œuvre d'une personne qui a écrit ce bouquin, qui a écrit tout le texte et qui avait envie de parler comme ça et d'être un peu il y a une vraie part au rêve, au voyage. Il y a des questions où on ne répond pas toujours à fond aux questions. Voilà, ça laisse beaucoup le lecteur imaginer.
C'est bien. Et en plus, c'est vachement bien parce qu'il y a quelque chose de très innovant pour le coup. On parle d'histoire de la techno, en même temps, tu mélanges les arts très graphiques avec quelque chose de très musical. Ça, c'était aussi, j'imagine, ce qui t'a séduit dans le projet.
Parce que déjà l'univers de Laurent est assez incroyable, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans la BD un peu potache, on est dans un truc qui est quand même très 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 beau. Il y a un très beau travail sur les dessins. C'est vrai que Laurent, c'est pas forcément une personne qui connaissait très bien le monde de la musique électronique. Je trouve que pour quelqu'un qui a jamais été à Manchester, qui a jamais été à la Hacienda, en ayant vu que trois photos, le mec a su vraiment bien recréé en images les scènes de club. C'est-à-dire que moi, il y a un truc que j'ai toujours dit sur les films et sur le cinéma en général, qui essaye des fois de faire des scènes de club. Je trouve que toutes les scènes de club que j'ai vues au cinéma sont ratées. Mmh. À part peut-être une scène de club que moi je trouve très jolie dans Babel, mais à part ça, je trouve que toutes les scènes de club ne sont pas ce que moi je vois tous les week-ends.
Même dans Berlin Calling, par exemple.
J'ai pris la tête en se disant on va essayer de faire une belle scène de club qui ressemble à ce que nous on connaît.
Même dans le Berlin Calling, le film allemand avec.
Ouais, Berlin Calling, ouais, forcément, parce que là c'est vu de l'intérieur et c'est fait par un mec qui connaît très bien la scène. Donc, oui, je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai que très souvent c'est quand même très décevant. Ouais. Et là, on est quand même sur un livre qui parle beaucoup de sueur, de danse, de bouger, de se réunir, de tout ça. Et je trouve que toutes les images sont très réalistes. Moi, c'est ce que moi je vois. C'est souvent la vision que j'ai de ma cabine DJ quand je regarde les gens. Tu vois, les gens, les corps bouger et tout. Je vois ça et je trouve que c'est très bien. C'est très très bien retranscrit en dessin et je trouve que c'est très réaliste. Donc ça m'a beaucoup touché. Et après, j'aimais bien le fait que Mathilde me dise non mais on n'a pas envie de faire un électrochoc bis, surtout que nous on était déjà en train de retravailler sur le nouveau chapitre d'électrochoc. Elle m'a dit on va être sur un truc qui est beaucoup plus poétique. Et comme elle à l'époque elle était déjà en train d'écrire une BD sur Sartre, j'ai lu les ébauches qu'elle faisait sur Sartre, je me suis dit c'est vraiment intéressant, son angle est intéressant, c'est-à-dire qu'on va emmener quelque chose de différent par rapport à l'histoire de la techno. On peut pas dire qu'avec cette BD on raconte l'histoire de la techno. On est plus sur un truc très imaginaire quand même.
On marque une petite pause.
Tout en restant très factuel, parce qu'on se retrouve à Chicago avec DJ Pierre quand il a fait le premier morceau d'Acid House. Et je trouve que les dessins avec la TB-303, les espèces de mouvements, d'ondulations dessinées dans la pièce, c'est exactement ça, une TB-303. Je trouve que graphiquement, ils sont vraiment arrivés à nous projeter dans l'univers et du son et de la danse et de tout ce que nous, on connaît.
Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir le DJ de référence de la scène française, Laurent Garnier. Il vient de sortir l'intégrale d'Electrochoc, plutôt c'est une réédition, ce qui nous permet à la fois justement de retrouver ce livre culte, mais également un livre réédité, enrichi. Alors Laurent, qu'est-ce que tu as rajouté à l'intérieur ?
Bon, on a juste rajouté un chapitre de 120 pages.
Ah oui, c'est tout.
Oui, écoute, c'est assez drôle, mais il faut savoir, pour la petite histoire, on a eu des traductions d'électrochoc dans plusieurs pays, notamment le Japon, le Brésil, la Russie, et pas l'Angleterre. Et ça, c'est un truc qui m'a chicoté quand même. Parce qu'à un moment, je me suis dit, merde, j'aimerais bien quand même sortir ce bouquin en Angleterre. Et donc, j'ai contacté une traductrice et j'ai payé la traduction moi-même. Je lui ai dit, je veux une traduction anglaise, mais quitte à la filer gratos sur le net, j'aimerais que mes potes en Angleterre qui n'arrêtent pas de demander depuis 10 ans puissent lire ce bouquin. Donc je suis parti sur la traduction anglaise et quand j'ai eu la traduction entre les mains, je me suis dit quand même c'est vachement bien. J'ai rappelé David, donc le journaliste avec qui on avait écrit Electrochoc à l'époque, et je lui dis ce qui serait peut-être bien, ça serait peut-être de rajouter je sais pas, une vingtaine ou une trentaine de pages. Il s'est quand même passé pas mal de belles choses ces 10 dernières années, il y a eu beaucoup de trucs, ça serait bien de rajouter 2-3 trucs. Et donc je contacte la boîte d'édition à Paris, donc Flammarion, et je leur dis voilà, puisque j'ai le droit de ressortir Electrochoc en Angleterre, je vais le faire, et puis je vais faire un petit chapitre. Et là, la personne chez Flammarion nous dit, mais si le chapitre est un peu conséquent, nous on ressort le bouquin parce qu'on arrive aux 10 ans de Electrochoc.
Ah, c'est bien.
Donc on est parti sur cette lignée là en disant écoute, on va peut-être faire 30-40 pages, et on est arrivé, je crois que dans le bouquin ça doit faire 120 pages en plus. Donc c'est 6 chapitres en plus. Nous on appelle ça le chapitre en plus, mais c'est 6 chapitres en plus.
C'est pas l'intégrale, c'est les intégrales.
Écoute, ça raconte beaucoup de choses. Je pense qu'il y a pour les gens qui ont lu Electrochoc à l'époque, ça en plus, là on parle des 10 dernières années. Alors rapidement, on parle de l'explosion de Berlin, mais on raconte l'histoire de Berlin depuis les années 20, parce qu'il se passe tellement de choses là-bas depuis toujours que c'est quand même intéressant de savoir ce qui s'est passé là-bas depuis longtemps. Dans la première partie sorti d'Electrochoc, on n'avait pas vraiment traité New York. Donc là, on a rencontré James Murphy et on a rencontré François K. Donc on parle un petit peu plus de la scène de New York à partir du disco jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a fait? On parle un petit peu de dubstep forcément, parce que ça fait 10 ans qu'on en parle. On parle beaucoup de l'explosion des festivals, des grosses stars, de l'EDM, des dérives, la disparition du vinyle pendant toute une période, toutes les boutiques de disques ont fermé, le digital, le fait que maintenant, aujourd'hui, on est tous avec des ordi portables, alors qu'il y a 10-15 ans, c'était pas forcément encore vrai. Les choses ont beaucoup changé, la façon de diffuser de la musique, la façon de la jouer, l'explosion totale de la techno. On parle de tout ça, puis aussi le questionnement de vieillir aujourd'hui dans une musique qui n'est plus si jeune que ça, parce que ça fait quand même 25 ans qu'on écoute cette musique-là. Donc quelque part aujourd'hui, moi à 47 balais, des fois je me pose des questions, tu vois, en jouant de la musique devant des jeunes qui ont 20 ans, je me dis, est-ce que tout ça c'est bien pertinent? Donc toutes ces questions sont aussi dans le nouveau chapitre.
Mais c'est vachement intéressant et c'est pertinent justement parce qu'on a l'impression que tu te donnes comme un devoir de mémoire vis-à-vis de cette jeunesse, de cette scène musicale. Tu prends visiblement un plaisir fou à raconter justement toutes ces histoires et ces bouleversements. Et alors, finalement, toi, Laurent, aujourd'hui, où est-ce que tu trouves que l'électro se réinvente et se renouvelle le plus?
En France? Ah ouais, mais carrément, là, je trouve que depuis un an et demi, j'ai jamais vu la France aussi excitante, aussi excitée aussi. Je trouve qu'il y a tellement de choses, il se passe tellement de choses, alors que Dieu sait que j'ai été très très dur sur la ville de Paris et la nuit à Paris. Dieu sait que j'ai été extrêmement hardcore là-dessus, parce qu'il y a un moment où je trouvais qu'on se faisait tellement chier à Paris, c'était quand même pas possible, que là, aujourd'hui, je me rends compte qu'à chaque coup que je viens jouer à Paris, quand je joue, que ce soit à la machine, au Rex ou dans un autre endroit, je me rends compte qu'il y a 15 autres soirées et que les 15 autres soirées sont blindées aussi. Ça, c'était pas possible il y a 10 ans. C'était impossible. Alors, il y a 10 ans, il y avait 3 trucs qui se battaient en duel. Aujourd'hui, il y a des festivals qui font 15 000 personnes. T'as conclu, t'as des tonnes de choses qui font que la scène est vibrante. Et il y a tellement de nouveaux labels, tellement de nouveaux artistes à Paris, à Bordeaux, à Lyon, dans le sud de la France, ça explose. C'est incroyable. Et je trouve que moi qui voyage beaucoup, parce que je continue toujours à jouer quasiment tous les week-ends, je me rends compte que c'est pas pareil dans tous les pays. Et je me rends compte que là, en ce moment, en France, c'est un peu l'endroit où ça se passe, quoi. Donc je trouve que la scène française est super excitante et super intéressante.
Un dernier mot, Laurent, est-ce que tu nous prépares un petit album, un petit track, un petit EP prochainement?
Ah oui.
Obligé, en tous les cas.
Tu voulais que je t'en dise plus?
Bah grave.
Alors je te dis ah oui, mais alors un gros ah oui.
Bon bah écoute, ça sera le plaisir de t'accueillir en live dans les studios d'FG pour nous parler de tout ça.
Pour dire, il y a pas mal de EP qui vont sortir là à partir de janvier.
Eh ben écoute, en tous les cas, ce sera le plaisir de t'accueillir en live et de parler tout ça avec toi, Laurent. C'est vraiment
avec plaisir.
C'était un plaisir de t'avoir. Laurent Garnier, retrouver à la fois l'histoire, les anecdotes des musiques électroniques à travers sa carrière et à travers deux possibilités. La version BD avec Rêve Syncopé aux éditions d'Argo, une version plus riche, bourrée d'anecdotes, c'est Electrochoc, l'intégrale qui sort une édition totalement enrichie, officiellement un chapitre, officieusement 6. Et là, c'est Flammarion qui s'y colle. Dans les deux cas de figure, c'est laurentgarnier.com sur lequel vous pourrez tout trouver. Laurent, je t'embrasse et à très bientôt sur FG.
À bientôt.
Bisous. Ciao. Bye.
Avril 2022, Antoine Baduel reçoit David Guetta.
Quel régal, quel bonheur de voir notre David Guetta national livrer un nouveau single, Crazy What Love Can Do. Et c'est sûrement par ce son que David Guetta, Becky Hill et Ella Anderson comptent nous accompagner ce printemps, voire cet été. Il faut dire que le son respire la chaleur, la danse et les fêtes en plein air. Le roi, le maestro, le king, l'icône et aussi, accessoirement, celui dont on est très fier puisqu'il est résident chaque samedi sur Radio FG. David Guetta est mon invité ce soir. Bonsoir David, comment tu vas?
Mais toujours un plaisir, je suis toujours content quand je te vois, depuis toutes ces années, c'est génial.
Bah, le plaisir est partagé, crois-le bien. Bien organisé, avec un peu d'avance, voilà donc ce son très estival que Crazy What Love Can Do nous évoque. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce titre, hormis le fait bien sûr que tu y as mis tout ton génie énergique, efficace, celui qu'on te connaît bien sûr?
Ben, en fait, c'est un titre qui est super positif. C'est vrai que j'ai toujours moi l'idée que quand il y a des périodes de crise, des périodes qui sont difficiles pour les gens, on doit faire des morceaux qui leur permettent de se sentir bien. Et voilà, c'est un son qui est super feel good, super été. Et c'est ça le but. Et c'est un truc qui est très positif. Et je trouve que ça fait du bien aussi. par moment. En plus, il y a un côté un peu house 90 comme ça que moi j'adore, comme tu sais.
Bah, bien sûr.
Et voilà, c'est un peu, c'était un peu la démarche. Et en plus, bon, on a eu un très gros succès en Angleterre avec Becky Hill et Remember. Donc, je suis contente de revenir avec un autre titre avec elle.
Bah, c'est clair. Sur ce single, donc deux chanteuses, Ella Anderson, je disais, mais Becky Hill, qui est la chanteuse du moment, parce que c'est vrai qu'elle vient de repartir avec un Grammy Award. Alors, c'est pas la première fois d'ailleurs que vous collaborez ensemble. C'est ton nouveau coup de cœur musical, Becky Hill?
Oui, oui, elle a une voix de dingue. Et puis surtout, comme j'adore la house, elle est vraiment parfaite pour ça, quoi. Donc, c'est pas non plus facile à trouver en ce moment une artiste qui est jeune et qui a ce style de voix. Parce que ces derniers temps, la mode un peu dans la musique, c'était pas forcément les grosses voix soulful comme ça. Et donc moi j'adore ça, je suis fan parce que j'ai aimé le disco, j'ai aimé la funk, j'ai aimé la house. Donc voilà, c'est tout à fait dans mon créneau, quoi.
Alors ce qui est très intéressant, c'est que aujourd'hui tu as plein de projets. D'un côté évidemment David Guetta, Jack Back, Futur Rêve avec Morten d'ailleurs, on voit de plus en plus d'images entre lui et toi sur scène, on a l'impression que vous vous éclatez sur scène, tu confirmes?
C'est exactement ça. Là, on commence notre première tournée US, donc et c'est sold out partout, donc je suis super content. En plus, c'est vraiment un projet que je fais complètement par passion. C'est pas des titres qui sont hyper radio, à quelques exceptions près. Et ça fait vraiment du bien. Je trouve que ça fait vraiment évoluer aussi toute la scène. Il y a quand même énormément de DJ qui sont mis à produire dans notre style, que ce soit Nicky Romero, Tiesto, Armin, maintenant Hardwell. Bon, il y a quand même et il y a aussi ce que je trouve très intéressant, il y a aussi des artistes qui étaient considérés comme plus underground, comme Tell of Us, comme Medusa, comme Arbat, qui se rapprochent aussi un peu de nous. Et donc, si tu veux, les barrières entre l'underground et le main stage, elles deviennent de plus en plus fous. Et c'est nous, on est allés vers l'underground. Et en même temps, eux, tu vois que comme maintenant, ils jouent de plus en plus des festivals, ils ont aussi besoin d'un truc un peu plus efficace. Et donc, c'est très intéressant ce qui est en train de se passer. Et donc, je t'annonce un peu une petite nouvelle en exclu. C'est que le vendredi, tous les vendredis à High, à Ibiza, je faisais Fuck Me I'm Famous avec beaucoup de succès, et je vais mettre Fuck Me I'm Famous le lundi à Ushuaia, et je vais faire Future Rave avec Morten, Medusa, Artbat, Vintage Culture, Chami et Mala. Voilà.
Ah oui, donc très intéressant, parce que là tu vas vraiment métisser les gens, parce que finalement Chami Mala, c'est le Pardon My French, donc c'est un certain son un peu plus hybride aussi avec le trap aussi.
Mais si tu veux, je trouve que je voulais faire quelque chose de nouveau, tout simplement. Et je trouve que il y a 2 ans et demi qui sont passés avec le Covid, et la plupart des gens reviennent avec la même chose, quoi. Et c'est pas possible. Il y a une nouvelle génération. Il y a beaucoup de temps qui s'est passé. En plus, je trouve qu'on était déjà sur la fin d'un style. Et donc, je profite de ça pour revenir complètement frais. Et aussi bien dans le côté un peu plus pop, comme Crazy What Love Can Do, où j'ai fait beaucoup de titres cette année un peu qui ont cartonné en Angleterre, plus house, un peu 90s house comme ça, et avec des nouveaux artistes en plus que je trouve cool. Et du côté un peu plus underground, toujours Jack Back avec I Got a Feeling, et puis tout le projet Future Rave pour les festivals.
Donc en fait, c'est vraiment une annonce que tu nous fais. Là, dorénavant, Fuck Me I'm Famous passe le lundi à Ushuaia, et le vendredi, ce sera donc le projet Future Rave. Ton actualité, c'est aussi Jack Back, projet qu'on soutient énormément sur FG. Parmi toutes tes releases qui s'enchaînent, il y a toujours ce feeling très, très house, excellent, dans la plupart des traditions. Alors, c'est comme ça finalement que tous tes projets s'articulent. Jack Back pour une house plutôt underground, et pour les experts et pour les anciens aussi. Future Rave, justement pour le public un peu plus jeune, un peu plus main stage. Et puis des productions plus pop sous la marque David Guetta.
Exactement, c'est exactement ça, t'as tout compris.
Et comment tu fais pour puiser toute cette énergie, pour produire? Alors on se connaît depuis longtemps, moi j'ai l'impression que t'es toujours aussi passionné, avec un plaisir sans cesse renouvelé.
Mais je suis à fond, mais c'est incroyable. Et je te jure, moi-même, je me demande, mais comment ça se fait? Mais parce qu'en fait, quand je fais des trucs nouveaux comme ça se passe avec Future Rave, c'est tellement excitant pour moi de voir que ça marche, que ça influence la scène. Je trouve ça incroyable parce que ça fait quand même 20 ans que je fais ça au niveau international. Et de voir que, waouh, il y a tous les kids qui ont 16 ans qui sont dans leur chambre et qui essayent de refaire le style de prod, c'est quand même très, très cool. Et de pouvoir encore inspirer des gens, ben, j'en suis super fier. Et puis aussi parce que je pense qu'on a, en tant que DJ, en tant que producteur, on a quand même une responsabilité pour faire évoluer le son. Et ça marche tellement bien en ce moment que ça m'a vraiment boosté. Et puis qu'est-ce que tu veux, moi j'ai énormément d'énergie et j'avais l'habitude de jouer 150 shows par an. Je me suis retrouvé enfermé chez moi pendant 2 ans et demi, donc forcément j'ai fait de la musique tous les jours et donc mon placard il est rempli à craquer là.
Alors on parlait des voix britanniques d'ailleurs pour souvent Becky Hill et Anderson pour autant, est-ce que tu gardes un œil aussi sur ce qui se fait en France? Est-ce qu'il y a des artistes français que tu écoutes et que tu aimes?
Alors, je t'avoue que je connais moins, j'aimerais. C'est drôle parce que c'est vraiment quelque chose qui me tiendrait à cœur. Parce que ça fait quand même pas mal, ça fait beaucoup d'années maintenant que j'ai quitté la France. Et j'adore la France. Ça me manque souvent. Je reviens souvent à Paris. Et j'ai pensé à ça, que j'aimerais faire un morceau en rassemblant beaucoup d'artistes français. Je trouve que ce serait un truc super cool.
Ça serait génial. Ça serait génial. On t'a vu récemment aux Grammy Awards, une des cérémonies qui rassemble la planète musicale. D'ailleurs, quel a été l'événement pour toi ou la cérémonie dans ta carrière dont tu es le plus fier? Celle où tu t'es dit, cette fois-ci, c'est bon, j'ai franchi un cap.
L'année des Grammys où j'avais... When Love Takes Over, I Got a Feeling, Memory, c'était vraiment fou parce que là, tu sais, il y a une sorte de hiérarchie aux Grammys, c'est assez marrant, en fonction de tes résultats, si tu veux. Donc, quand tu as un Grammy winner, quand tu as déjà gagné un Grammy, ou même si tu as été nominé, tu es automatiquement invité, puis tu votes aussi pour les gens. Mais en fonction de ton succès, si tu veux, tu es placé un peu plus devant ou un peu plus derrière. Et cette année-là, bah, j'étais premier rang, j'avais à ma gauche Beyoncé, Jay-Z, à ma droite Rihanna. C'était complètement fou, quoi. C'était une année parce qu'en fait, ça avait complètement dépassé la dance music cette année-là. Et donc, j'étais même plus considéré, j'étais nominé pour meilleure chanson de l'année. Et c'était même plus une histoire de dance music. J'étais nominé dans la dance music, mais aussi dans l'absolu, quoi. Donc, c'est quelque chose que j'oublierai jamais.
Alors, je t'ai vu sur Instagram, justement, débriefer aussi de la Winter Music Conference, de la Miami Music Week avec l'Ultra, en parlant du renouveau de la scène électro. Tu le disais tout à l'heure, d'Art Bat à Vintage Culture, en passant par Future Rave. Quel est le mouvement aujourd'hui que tu observes? Par quels sons la scène mondiale se nourrit-elle, selon toi?
Ben en fait, il y a eu, pendant le Covid, pour moi, j'ai observé, on va dire, trois phénomènes. Du côté pop, ce qui était assez intéressant, c'est que Tiësto, qui a jamais eu vraiment un réel crossover, pour la première fois, a eu des tubes énormes. Et j'étais super heureux pour lui parce que c'est quelqu'un que je respecte énormément. Et je trouvais ça assez marrant que finalement, les plus anciens comme Tiësto et moi ressortent plus fort après le Covid, alors que le Covid a fait quand même beaucoup de mal à beaucoup de DJ. Et après, mais ça, je ne considérerais pas ça comme un phénomène en termes de mode musical parce que c'est un truc un peu à part, on va dire. Mais... dans les modes musicales, je trouve qu'il y a Fischer qui est ressorti et tout ce phénomène de tech house, bass house qui est devenu finalement mainstream aujourd'hui. Et il y a eu la Future Rave. Et à côté de ça, quelque part, je le mets un peu dans la même famille musicale, c'est ce que je disais. Il y a des groupes comme Medusa qui ont fait des titres très pop, mais dans leurs remix sont quand même...
Les remix sont pointus, ouais.
Pointus et de qualité, et pas très loin de mon univers Future Rave encore une fois, même, je ne dis pas du tout qu'ils copient, parce que c'est différent, mais c'est un peu le même univers. Vintage Culture, Art Bat, tous ces gens-là, et nous-mêmes avec Morten, je pense qu'on est en train de donner une dynamique vraiment de renouveau d'une scène qui peut en même temps toucher l'underground et en même temps toucher le main stage et même avoir du succès en radio. Et moi, tu me connais, moi j'essaye toujours de rassembler les gens
et de combiner les deux, bien sûr.
Combiner les deux, donc je trouve ça très excitant. Je trouve ça vraiment très excitant.
Et dis-moi, apparemment, ton fils Tim Elvis a lui aussi chopé le virus de la musique. Il semble davantage porté d'ailleurs sur le rap. Tu sens qu'il a du potentiel. Tu essayes de.
Ah,
tu
l'aides. Lui, il est parce que il a grandi à Londres. Ouais. Alors c'est très marrant. Il est UK rap au maximum. Il y a un artiste qui s'appelle Central C. Alors il est fan absolu. Il est venu à son anniversaire. Et ça, mais c'est assez marrant parce que mon fils parle anglais, c'est-à-dire qu'il a tellement un accent anglais tellement fort que même moi j'ai du mal à le comprendre. Alors, je veux lui mettre des gifs. Je lui dis, mais tu vas parler normalement. C'est incroyable d'entendre mon fils parler encore avec un accent encore plus fort que les Anglais. C'est un truc de fou. Je trouve qu'il est formidable. Je suis très fier de lui. Il a des bonnes valeurs et je l'ai amené au Grammy. C'était vraiment très drôle parce que au début les gens prenaient les photos de nous deux et à un moment les photographes ont commencé à prendre des photos de lui seul sans savoir qui c'était, mais en disant waouh, mais qui est cet artiste alors que il fait pas réellement de musique et il adore la musique mais il n'est pas musicien. Et donc c'était marrant quoi, c'était une belle expérience.
David Guetta de retour avec son nouveau single, peut-être même le single qui vous accompagnera cet été. En tous les cas, c'est ce qu'on lui souhaite. Crazy What Love Can Do avec les voix de Becky Hill et Ella Anderson. Et puis je vous le rappelle, David Guetta, vous le retrouvez en exclu mondial tous les samedis à partir de 23h sur FG pour sa résidence hebdomadaire. Merci David, merci à toi.
Merci à tous, salut.
Octobre 2014. Antoine Baduel reçoit Jabberwocky.
Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir le groupe français Jabberwocky. Quel rapport entre une gastro-entérite et des stars de l'électro made in France? Réponse, les Jabberwocky, non pas qu'ils soient malades, mais ce sont d'anciens étudiants en médecine. Mais ça, c'était avant Photomaton. Les trois garçons de Poitiers qui sont de retour actuellement avec un EP, comprenez, un mini-album qui contiendra notamment leur dernier maxi, Pola, déjà playlisté sur Radio FG. Les Jabberwocky qui sont ce soir mes invités de la Piawer sur Radio FG. Les garçons, bonsoir. Bienvenue sur FG. Vous sortez donc cette EP qui s'appelle Pola. Alors, que contient ce mini-album? Déjà, évidemment, le single Pola, mais quoi d'autre?
Alors, du coup, sur cette EP, il y aura donc Pola, il y aura deux inédits, deux titres à nous inédits. Et on a aussi fait faire six remixes par des artistes qu'on aime. Donc, en tout, il y aura 10 titres.
Alors, justement, parlons des remixes. Est-ce qu'il s'agit des fameux remixes de Pola? J'ai vu qu'il y avait plusieurs déclinaisons. Il y en a un qui a attiré mon oreille, c'est celui de Fakir, qui est un jeune producteur qui est originaire de Caen. Alors, pourquoi avoir fait appel à lui? Parce qu'il a le buzz en ce moment.
Bah, en fait, on écoutait beaucoup Fakir et on avait eu la volonté de faire des remixes de Pola pour faire découvrir aux gens notre univers, ce qu'on aime écouter. Donc, on a tout de suite pensé à lui, en fait.
Alors, sur Photomaton, on trouvait la voix de la chanteuse Elodie Willstars. Pour Pola, c'est une chanteuse, j'allais dire une cantatrice nommée Clara Capgly. Alors, est-ce que c'est à dire que vous êtes très attaché et que vous donnez beaucoup d'importance aux voix, au fait de trouver à chaque fois la voix féminine parfaite pour habiller vos singles?
Bah ouais, c'est un peu le concept du groupe. En fait, on aime bien avoir la liberté de choisir le chant qu'on trouve qui correspond le mieux au morceau qu'on produit, en fait.
Et pour le casting, c'est facile?
Non, c'est pas toujours facile. On aime bien prendre le temps pour bien choisir.
Alors, vous avez un succès fulgurant. Produire un deuxième single, c'est pas facile, surtout en deep house. Vous étiez dans quel état d'esprit? Est-ce qu'on a une pression maximum dans ce cas-là, une espèce de rage pour prolonger le succès, notamment après le fameux Photomaton qui a quand même eu un retentissement international?
Bah, Photomaton, ça nous a donné une espèce de pression positive, en fait, pour travailler. Donc on l'a fait de la même façon qu'on procède tous les trois comme d'hab, et on a voulu proposer un nouveau titre dans le même état d'esprit que le premier.
Et ce soir, mes invités sont les Jabberwocky. Alors, un petit mot, les garçons, sur le clip de Pola, quand même. On y retrouve l'actrice franco-iranienne Goldshifteh en déesse qui attire pas mal de mecs. Alors, comment est née cette vidéo? C'est vous trois qui avez été aux avant-postes pour la concevoir?
C'est nous trois en concertation avec notre label Pain Surprise, qui est un collectif qui a plein de facettes, et notamment la vidéo. Et voilà, on a eu la chance d'avoir Goldshifté qui a accepté de participer au clip.
Je crois savoir que vous préparez, au-delà de cette EP, un nouvel album. Concrètement, d'abord, est-ce qu'on naviguera avec les mêmes sonorités dans les mêmes eaux pop électro?
Bah oui, ça sera électropop, et après chaque morceau aura vraiment son ambiance particulière. Je crois qu'on a vraiment la volonté sur cet album d'ouvrir et de montrer un peu tout ce qu'on aime faire en fait.
On parlait de Caen tout à l'heure avec Fakir, vous étudiez à Poitiers. Alors en amateur de musique électronique, c'était quoi votre parcours classique? Vous fréquentiez quels endroits à Poitiers?
Nous, il y a un bar en particulier qu'on fréquente pas mal, ça s'appelle le Minima, donc c'est de la minimale du coup. Et voilà, après il se passe pas mal de choses au confort moderne, il y a aussi au TAP à Poitiers avec les soirées rectangles, donc ça se développe petit à petit à Poitiers. Ouais.
Cet ancrage régional, est-ce qu'il vous aide toujours dans votre carrière aujourd'hui pour produire par exemple des concerts? Est-ce que vous avez une grosse fanbase locale surreprésentée au niveau de la scène poitevine?
Bah, je pense qu'on est plus suivi à Poitiers, oui. Ouais. On a pu le voir quand on a fait des concerts qui ont pu attirer vraiment beaucoup de monde. Et puis après, nous, c'est surtout au niveau de l'environnement qu'on se sent plus à l'aise, parce qu'on est tranquille chez nous pour composer, bah, justement pour l'album. Et il y a toute notre équipe de concert aussi qui est juste à côté, donc ça permet de faire avancer les choses assez vite.
Merci à tous les trois et à bientôt sur FG.
Merci.
Janvier 2021. Antoine Baduel reçoit Môme.
En 2020, avec le contexte que l'on connaît tous, il fallait guetter encore plus les bonnes nouvelles. Et la musique a sans aucun doute beaucoup aidé en cela. Et clairement, sur ce niveau-là, eh bien, l'une des meilleures nouvelles de la semaine a été l'annonce de la sortie à venir de Flashback FM, l'album absolument sublime signé Môme et Ricky Ducati. Alors, pour vous se rappeler, Môme et Ricky Ducati, ça a été Got It Made. Les voici de retour avec un tout nouveau single. Il s'appelle I Know. Et Môme est mon invité ce soir sur FG. Môme, Jérémy, bonsoir, bienvenue mon ami. Bonne année à toi, tous mes meilleurs vœux.
Et salut Antoine, bonne année.
Alors, donc un petit mot d'abord sur ce nouveau single I Know, qui fait suite à Moves, qui avait un rythme bien plus lent, mais également à Got It Made. Là on repart sur une autre production avec ce morceau qui est, j'allais dire, presque envoûtant, plus électro, un peu plus sombre aussi. Est-ce que c'est comme ça que tu le définirais?
Exactement, en fait c'est vraiment l'idée. Flashback FM, c'est un panel d'émotions, un panel de différents sons. C'est un retour en fait vraiment aux années, à la